soirée reçue à l'Élysée sur Radio 103, 102.3 FM et Radio Plaisance sur 95.9 et aussi sur internet sur www.radiopairie203.org et aussi sur le site forêtreclus.ovh.org. Donc, il n'y a pas que Radio 103 qui est en danger, il y a plein de gens en danger, il y a plein de choses en danger, beaucoup ou énormément en ce moment. Donc, sur justement le site planning-familial.org, on peut signer une pétition car le planning familial est en très grand danger aussi. Donc, je vous lis cette pétition et si vous pouvez aller la signer sur Internet, voilà. En diminuant de 42% dans la loi de finances 2009 le montant affecté au conseil conjugal et familial, l'État programme à très court terme la suppression totale des actions d'information, d'éducation et de prévention dans les domaines de la sexualité et de la vie de couple et affective. Par cette décision, l'État montre sa volonté d'abandonner les missions qui sont les siennes quant à l'accueil, l'information et la prévention concernant la contraception, la fécondité, la sexualité. Il se désengage par là de la préparation des jeunes à la sexualité, à leur vie de couple et à la fonction parentale. Il marque son désintérêt pour les pratiques d'accueil et de conseil, qu'elles soient mises en œuvre lors d'activités collectives ou d'entretiens individuels. Ces missions d'utilité publique sont donc très très clairement menacées par la baisse des financements déjà largement insuffisants, alors que la loi Neuwirth a clairement affirmé le rôle essentiel joué par les associations aux côtés de l'État. Pourtant, dans une société où les relations filles-garçons sont de plus en plus marquées par la violence, où les campagnes nationales de prévention et d'information ont besoin de relais de terrain pour être efficaces, ces missions définies par la loi « plus de jamais » sont primordiales. 450 000 personnes bénéficient chaque année des actions du planning familial dans ces 70 associations départementales de métropole et des DOM. La conséquence de cette brutale démission de l'État est la fermeture programmée d'un grand nombre de ces lieux d'accueil individuels et collectifs. L'État doit assurer sa responsabilité nationale pour l'information, l'éducation à la sexualité et la prévention pour toutes et tous, conformément à l'article 1 de la loi 73-639 du 11 juillet 73. L'État ne doit pas supprimer les lieux d'écoute et de parole, mais les développer. L'État ne doit pas supprimer les interventions collectives, mais les développer. L'État doit donner aux associations qui assurent ces missions les moyens aujourd'hui nécessaires pour le développement de leur activité et de leurs interventions. Tous ces acquis sont récents, ces droits sont fragiles, nous avons lutté pour les obtenir. Luttons ensemble pour les défendre. Voilà, si vous souhaitez soutenir le planning familial, signez la pétition. On fait une petite pause musicale et juste après, je reviens, nous revenons, car je ne suis pas toute seule.
Je m'en sors de l'envie de mon esprit navigue dans un univers qui se me gagne.
C'est toujours Fort et Reclus sur Radio 103, donc nous venons d'écouter Tri Turbos. Et nous avons par téléphone Michel. Bonjour Michel.
Bonjour.
Qui est vice-présidente de la Fédération nationale de la libre pensée et avec qui nous allons justement parler de ce planning familial et des luttes qui ont été et qui sont encore et qui doivent être encore plus fortes maintenant.
Bien sûr. Alors, je vous remercie d'ailleurs d'abord de m'avoir invité à parler sur votre radio et j'en suis ravie. J'aurais préféré être en direct, mais tout près de vous en Dordogne.
Oui.
Mais donc, je pense qu'on va malgré tout pouvoir expliquer le rôle du planning familial et surtout revenir sur l'histoire. Alors, je pense qu'à la fin, nous reviendrons largement sur les dangers qui pèsent sur le planning familial, puisque ça a été largement lu avec la pétition. C'est un véritable danger qui pèse sur ce planning et c'est un véritable danger qui pèse sur la société elle-même.
Oui, tout à fait.
Alors, donc, effectivement, la lutte, le combat de ce siècle, enfin, le combat du XXe siècle, a été celui du droit à la maternité maîtrisée avec les grandes lois pour la contraception et l'IVG qui ont permis de séparer, ne l'oublions pas, et c'est vraiment là la chose la plus importante, la sexualité et la procréation. Alors, la libre pensée, bien entendu, si elle intervient aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'elle a lutté aux côtés des féministes depuis très très longtemps, je dirais depuis la Révolution française, pour ses droits essentiels à la contraception et à l'avortement, parce que nous allons voir que, bien entendu, la lutte du planning familial est une lutte qui a 50 ans, mais qui n'a pas débuté de manière arbitraire, elle est vraiment la résultante de nombreuses années de lutte qui ont commencé, je le répète, à peu près à la Révolution française.
Oui, donc ça date de quelques temps quand
même. Ça date de quelques années.
Oui.
Alors, effectivement, bon, on peut dire que la Révolution française n'est pas étrangère à cette évolution, car c'est à ce moment de l'histoire, alors effectivement, la Révolution n'a pas résolu le problème des femmes, mais c'est bien à ce moment de l'histoire que la question sociale des femmes s'est posée, que la question de l'inégalité homme-femme s'est posée comme une réelle question politique. Alors on le sait, la question n'a pas été à la hauteur, puisque les femmes ont mis, il faut quand même rappeler que la femme n'est plus mineure juridique en France depuis seulement 1935,
oui.
ça n'est pas rien, donc il aura fallu presque 150 ans après la Révolution française pour obtenir cette notion d'égalité homme-femme. Et comme le disait Condorcet, l'homme saisit rarement, immédiatement, le sens de ses découvertes.
Oui.
Mais la Révolution française donc a permis la marche vers l'émancipation qui a commencé à germer dans les esprits des femmes. Des femmes et aussi des hommes, on le voit, puisque Condorcet défendait cette notion d'égalité homme-femme. Donc l'idée de l'émancipation des femmes va passer par un certain nombre de préalables qui sont indissociables des uns des autres. Il faut bien toujours avoir ça à l'esprit. C'est l'égalité homme-femme, c'est l'éducation pour les femmes, puisqu'il y a aussi, il y a eu un grand travail, puisqu'on sait que très tardivement dans l'histoire, les hommes et les femmes n'avaient pas le même droit à l'éducation, en tout cas, les femmes n'avaient pas accès à la même éducation, à l'instruction, je dirais plutôt,
oui,
que celle des femmes, mais ça sera sûrement un autre sujet sur votre radio, j'espère.
Oui,
donc, instruction identique pour celle des hommes et des femmes, mais aussi l'indépendance financière, hein, parce qu'évidemment, il ne peut pas avoir d'émancipation de la femme sans indépendance financière, qui va permettre à la femme de passer de l'assujettissement à l'indépendance morale. Et bien entendu, un des derniers préalables, c'est la notion de maîtrise de la fécondité. Tout ceci a été corrélé à une autre revendication indiscutable, et c'est en ça que la libre pensée joue son rôle, c'est celui de la séparation des églises et de l'État. Église qui, et on le verra tout au long de cette émission, même dans des textes très très récents, Église qui a de tout temps maintenu la femme dans la servitude, en mettant en avant la notion de nature, d'ordre naturel, la notion de sexe social, c'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est largement débattu aujourd'hui, c'est la notion du genre.
Oui, tout à fait.
Hein, ça, c'est quelque chose de très très important, et c'est pareil, ça pourrait être un sujet d'émission parce que ça prend à lui seul suffisamment de temps, donc nous ne le développerons pas ici.
Mais donc, justement, avant le planning familial, il y avait tout plein de mouvements, justement, pour l'émancipation de la femme aussi, entre la Révolution et et la création du planning, quoi.
Donc, tout à fait.
Par rapport au rôle aussi de la femme, comment il est maintenu et nourri par justement cette société patriarcale-là, avec en lien forcément avec l'Église. Et voilà, donc c'est arrivé comment le planning familial?
Alors, le planning familial est né donc est né, je dirais, quasiment 150 ans avant sa naissance réelle, au moins 100 ans du moins, puisque la notion, l'idée de contrôle des naissances est née de deux théories. Une première théorie, c'est la théorie eugéniste de Francis Galton sur la sélection des races. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un petit peu brutal. En fait, ça n'est qu'une notion de sélection de race d'un point de vue mathématique statistique. En effet, Francis Galton est l'inventeur des mathématiques statistiques et il avait émis l'hypothèse d'une possibilité de sélection génétique à partir de calculs mathématiques. Il faut quand même rappeler que Francis Galton était un proche parent de Darwin. Donc, cette notion d'évolution des espèces, hein. Donc, voilà. Par contre, alors, de cette théorie de Francis Galton vont naître deux courants très différents. L'un conservateur de la sélection de la race dominante, et là, qui a abouti à l'Holocauste, hein, on sait très bien où ça a abouti. Par contre, le deuxième courant qui est né de ces théories de Galton était la théorie donc du courant féministe à l'origine de la notion de maternité maîtrisée. Donc c'est vraiment deux courants complètement différents, hein, conservateur, l'autre au contraire, qui défendait une évolution des femmes et l'émancipation des femmes. Donc bien entendu, c'est celui qui nous intéresse, c'est celui qui est à la base de la naissance de ces mouvements de planning familiaux et autres. Voilà. Et la deuxième théorie, donc, qui est aussi intéressante, c'est le néo-malthusianisme.
Ah oui.
Qui s'inspirait, alors lui aussi, d'une théorie qui n'était pas tellement recommandable, qui était la théorie malthusienne, hein, de Malthus. Et, alors, Malthus expliquait, donc, dont l'objectif était de limiter la population. Donc, selon Malthus, il fallait, pour faire diminuer la misère, diminuer le coût de l'assistance aux plus démunis. Donc, on ne peut pas être d'accord avec cette théorie, bien entendu. Et les néo-malthusiens, donc, qui sont aussi à l'origine de cette notion qui nous intéresse aujourd'hui, de cette notion de maîtrise de la fécondité, les néo-malthusiens, donc, par contre, et complètement à l'inverse de la théorie de Malthus, expliquent que la limitation de la population est un moyen pour les plus pauvres de s'affranchir de l'oppression et pour les femmes d'acquérir la liberté. Donc, on le voit, c'est complètement l'inverse. Hein, toujours deux théories, une extrêmement conservatrice, et même d'une violence relativement importante, et l'autre, effectivement, qui revendique la notion de maternité maîtrisée pour les femmes. Alors donc, ces théories ont été développées largement, ont été développées sur le continent européen, en Angleterre. Donc effectivement, c'est en Angleterre que le premier projet de contrôler les naissances est apparu, avec cette ligue néo-malthusienne qui a été créée en 1877, et qui a été la première à parler de relations sexuelles sans risque de procréation. On revient à cette notion, hein, du planning familial qui travaille toujours sur la dissociation entre procréation et relations sexuelles. Pour les néo-malthusiens, bien entendu, c'était permettre aux femmes de décider du moment de leur grossesse. Hein. C'était, il faut quand même le rappeler, un an pile avant la traduction législative en France.
Ah oui.
C'est-à-dire quand même que cette idée a cheminé pendant 100 ans dans les esprits. Enfin, surtout, à mon avis, n'a pas cheminé dans les esprits, a cheminé dans beaucoup d'esprits, mais a fait face à de nombreux obstacles, et principalement, là encore, l'Église catholique. Hein, parce qu'il faut savoir, il faut quand même rappeler que en 1877, la séparation de l'Église et de l'État n'avait pas été encore décrétée, mais il y avait déjà cette importante opposition avec l'Église.
Oui.
Et donc, il faut savoir aussi que cette idée a fait son apparition, et là, ça n'est pour surprendre personne, et en tout cas pas nous qui sommes à cette antenne, je pense, cette notion va faire son apparition en France, dans les milieux anarchistes et socialistes, révolutionnaire et bien entendu libre penseur, avec entre autres quelques personnalités, parce que je pense qu'il faut aussi rappeler qu'il y a eu des personnalités hommes et femmes dans toutes ces affaires. Je rappellerai par exemple une personnalité importante qui était à la fois donc Paul Robin, qui est un adhérent à la Première Internationale, oui. qui est un libre penseur et qui va ouvrir un centre d'information et de vente de produits anticonceptionnels dès le début du XXe siècle, ce qui n'est pas rien.
Oui, ben oui.
Donc ce personnage va créer la première école mixte en faisant abattre un mur qui séparait les garçons des filles. Donc c'est pas rien. Il a créé la première école mixte de l'histoire. Donc ce qui est quand même une grande victoire quand on connaît les oppositions, quand on connaît encore les oppositions aujourd'hui aux écoles mixtes. Hein.
Oui, c'est pareil, c'est ça. Mais de toute façon,
il faudrait revenir. Donc il va créer aussi la Ligue de régénération humaine en 1898 et là, je vous le donne en mille, contre la vie des églises, bien entendu.
Oui, forcément. Voilà, puisque les femmes doivent enfanter, enfin.
Ah, bah, les femmes doivent enfanter. C'est-à-dire que là, bon, tout au long, on aura, pour donner un petit exemple de ce que dit l'Église catholique, l'Église catholique va dire, par exemple, et c'est encore repris aujourd'hui, hein, puisque quand on lit les textes de Jean-Paul II ou de son successeur, très humaniste, je dirais, Benoît XVI. On lisait à cette époque toute pratique qui tend à détourner la semence masculine de sa destination reproductrice constitue l'immense péché d'Onan. Bon, il parle de la masturbation, mais enfin, en tout cas, la chose est la même. D'ailleurs, pour en revenir, pour donner une petite idée de ce qui se dit aujourd'hui par rapport à ces notions de maternité maîtrisée, je peux lire par exemple ce que disait Philippe de Villiers le 29 novembre 2000 à l'Assemblée nationale à propos du nouveau projet de loi présenté par la gauche concernant la contraception l'IVG. Philippe de Villiers disait « L'histoire retiendra qu'à l'imitation des nationaux socialistes, vous aurez introduit l'eugénisme d'État dans notre pays. Nous en arrivons au tri des enfants à naître. » C'est un nouveau droit qui émerge, le droit à l'euthanasie prénatale.
Ah.
Donc en l'an 2000, ça laisse quand même rêveur sur effectivement l'évolution et les dangers, hein, la fragilité des lois dont, et on le voit avec le planning familial aujourd'hui. Donc vraiment cet immense danger qui pèse encore sur ces lois essentielles qui ont été obtenues de haute lutte.
Oui, c'est ça, qui ont duré longtemps. Et justement, le planning familial, vu l'utilité de ça pour les femmes et même les hommes et même les couples sur la lutte contre le sida et autres IST.
Tout à fait.
Et tout là, c'est vraiment...
Oui, non, mais c'est clair que le rôle, entre autres, le rôle du planning familial se situe là aussi, hein, puisque une des chartes... Donc je lis là, je reprends quelques extraits du livre... qui a été édité au moment du cinquantenaire, il y a eu un grand colloque pour le cinquantenaire du planning familial, 50 ans de combat pour les droits des femmes, et effectivement, on peut lire dans l'introduction du livre, 50 ans pendant lesquels le planning n'a jamais baissé les bras, il ne s'apprête d'ailleurs pas à le faire, et on le voit d'ailleurs dans cette pétition, il ne s'apprête pas à le faire, car les combats du jour dans lesquels il est le plus que jamais engagé, s'appelle SIDA, violence, misère des femmes du Sud, difficulté des jeunes, sexisme, tentative de retour à l'ordre moral. Donc effectivement, c'est bien un combat. Et quand on parle justement de cette pétition, c'est pas innocent. C'est-à-dire que, ça correspond effectivement à la diminution des budgets qu'on voit dans tous les domaines de la société, l'éducation, la santé, etc. Mais il y a aussi derrière tout ça, un retour à l'ordre moral.
C'est ça.
Et ce retour à l'ordre moral, d'ailleurs... on se rend compte que c'est quand même, je dirais qu'il n'a jamais cessé, puisque dès le départ de la Ligue dont je parlais précédemment, donc avec Paul Robin, la première action de la Ligue, ça a été de publier une brochure qui va être diffusée et dans laquelle on va expliquer tous les moyens de contraception disponibles à l'époque. L'autre action importante, c'est celle de faire des conférences, mais on se rend compte qu'effectivement, les oppositions sont extrêmement extrêmement fortes, et les oppositions sont d'autant plus fortes au niveau de l'Église et au niveau d'institutions des institutions, et entre autres de l'institution médicale,
oui.
qui est une institution qui fait partie de ces organisations de la société qui ont été, je disais, recléricalisées après la loi de 1905.
Oui.
Hein, c'est important de revenir sur ces périodes-là et de savoir quand même que cette lutte de l'Église contre les moyens contraceptifs, contre la contraception, contre l'avortement, cette lutte de l'Église, elle est issue de quelque chose, elle est arrivée à un moment extrêmement précis dans l'histoire, c'est avec la notion de doctrine sociale de l'Église catholique, hein, qui est née de Rerum Novarum, qui est une encyclique papale de 1891 et qui définit une doctrine sociale précise. Et on peut lire d'ailleurs dans cette doctrine sociale, donc premier fondement de la doctrine sociale de l'Église catholique, et qui va insister, donc on lit dans cette doctrine sociale, et c'est une doctrine qui bien entendu s'oppose au mouvement socialiste révolutionnaire et anarchiste, hein, c'est pas arrivé par hasard non plus. Voilà, hein, c'est quand même une opposition très forte. Donc cette encyclique va insister sur le rôle naturel des femmes, qui est de se consacrer aux ouvrages domestiques, et leur grande fonction, qui est la fonction reproductrice. Donc cette nature permet de maintenir la femme dans la servitude, oui, au foyer, au service du mari et surtout à l'éducation des enfants. Pourquoi ? Deux avantages pour l'Église. Tout d'abord, il y a derrière cela une volonté d'évangélisation. À cette époque, et on le sait très bien, à une époque où gronde la guerre de séparation des Églises et de l'État et un début de déchristianisation. Et d'autre part, l'exaltation de la mission maternelle qui trouve son origine dans une dénatalité donc relative de cette fin de siècle. Et on le voit, donc effectivement, toute cette période-là sera marquée par vraiment ces deux oppositions. Donc, Rerum Novarum est la doctrine sociale de l'Église, elle a poussé des mouvements anarchistes et socialistes révolutionnaires, donc qui vont effectivement travailler complètement l'un contre l'autre. Oui. Voilà. Alors donc, on se rend compte qu'effectivement, il y a plusieurs choses hein, dans cette influence religieuse et contre justement ces revendications féministes, féminines et féministes. Il y a plusieurs choses. Donc il y a l'Église elle-même. Et ce que je disais tout à l'heure, il y a cette recléricalisation des institutions, qu'elles soient médicales, politiques. On voit bien d'ailleurs aujourd'hui la recléricalisation politique des institutions. Et le fait que le planning familial soit en danger n'est pas complètement étranger à cette recléricalisation, mais on parle souvent, enfin on s'aperçoit souvent qu'il y a une recléricalisation, donc entre autres des milieux médicaux. Et je cite quelqu'un qui est le docteur Doléris. Docteur Doléris, en 1918, il faut rappeler que 1918 c'est 2 ans avant la loi répressive de 1920 sur l'avortement et la contraception. Le docteur Doléris, membre de l'Académie de médecine, affirme que la maternité est proprement la signification et l'unique raison de la femme. Le grand devoir de la femme. Quel est le grand devoir de la femme, dit-il? Quelle est sa rayonnante mission? La tâche sacrée que la nation attend d'elle, enfanter, toujours enfanter, encore enfanter. Que la femme se refuse à la maternité, qu'elle la limite, qu'elle la supprime, alors cette femme ne mérite pas ses droits. La femme n'est plus rien. Volontairement stérile, la femme retombe au rang de prostituée, de la fille de joie dont les organes ne sont que des instruments, des jouets obscènes, au lieu de rester le moule auguste et vénérable de tous les siècles futurs.
Oui, on va arrêter là-dessus, on va faire une petite pause peut-être.
D'accord. Personne n'a de même dans les lieux muets, c'est que la source elle-même ne suffit pas.
Thank you.
soirée reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et sur 95.9 sur Radio Plaisance et sur www.radioperilleux103.org où vous avez le lien du site de l'émission de toute façon. Donc nous venons d'écouter René Binamé avec La dernière tentation du pape. Ça tombe bien puisque justement, Michel, nous parlions de l'Église et des lois justement sur le contrôle de la maternité.
Et oui, ça tombe tout à fait bien. Apparemment, cette petite musique, ça me convient tout à fait. Comme tout libre penseur, j'aime bien le côté blasphématoire.
Donc, n'est-ce pas?
Je ne vais absolument pas.
Sur la maternité maîtrisée, voilà.
Donc, sur la maternité maîtrisée. Alors,
les néo-malthusiens.
Les néo-malthusiens, donc, ils sont beaucoup battus. Et on le voit, donc, toute cette opposition de l'Église et des institutions qui ont été recléricalisées, je le disais, comme les institutions médicales. Et donc je vous citais le docteur Doléris, cette phrase extraordinaire,
oui.
Donc, pour qui une femme qui a des relations sexuelles sans idée de procréation est une prostituée. Et ben je vous en cite un autre, donc c'est le docteur Pinard qui en 1920, et on va parler dans quelques secondes de l'importance de cette date de 1920. Donc le docteur Pinard qui était gynécologue avec un nom pareil, ça ne s'invente pas non plus. Le docteur Pinard disait qu'une femme normale ne devait jamais avoir ses règles. Donc ça, on revenait sur exactement la notion de l'Église du docteur Doléris qui dit qu'une femme, le rôle de la femme, il est d'enfanter, toujours enfanter. Donc là, c'est quand même très très important. Alors donc effectivement, on en arrive à cette loi de 1920. Donc qui va faire suite à ces luttes donc qui ont commencé, on l'a vu avec les néo-malthusiens, avec toutes ces ligues qui se montent, avec des gens comme Paul Robin qui montent les ligues, donc qui ont monté des ligues et qui de régénération humaine, donc qui ont commencé à distribuer des contraceptifs. Et avec d'autres, hein, bien entendu, je cite par exemple Nathalie Roussel, Madeleine Pelletier, qui est quelqu'un de bien connu. Madeleine Pelletier qui disait « La maternité fait de l'amour une véritable duperie pour les femmes.
»
Donc, c'est vrai que ce sont des femmes qui ont osé, d'ailleurs qui ont osé dans d'autres domaines, puisque on peut se rendre compte que ces noms qu'on trouve ici, Madeleine Pelletier, Nathalie Roussel, sont des femmes qui étaient féministes, anticléricales, et qui ont été aussi pacifistes. Elles avaient aussi cette casquette de pacifiste. Et Madeleine Pelletier était bien connue donc pour ses actions pacifistes. Mais donc toutes ces batailles vont être, bien entendu, ces batailles féministes du début du 19e siècle vont être reléguées très vite par la guerre de 14-18 et par l'union sacrée et les politiques natalistes. Et malheureusement, ces politiques natalistes vont voir l'apparition de cette loi de 1920 dont je parlais précédemment, qui a été mise en place par Eugène Ignace, alors garde des Sceaux. Et cette loi donc va être une loi extrêmement répressive sur qui réprimera non pas seulement l'avortement et la contraception, hein, le fait de subir une IVG et une contraception, ou de bénéficier d'une IVG et d'une contraception, je dirais plutôt, mais la loi va réprimer en même temps la publicité. Toute publicité
toute
va devenir
interdite. Toute information qui circule est dangereuse.
C'est ça. Toute information qui circule devient dangereuse et devient punissable par la loi. Et donc, il y a un renforcement de la répression qui est très très forte, puisqu'on sait que, par exemple, entre 1880 et 1910, 72% des procès pour avortement finissent par un acquittement. Donc, effectivement, la loi n'existe pas, enfin, il n'y a pas de loi, l'IVG n'est pas autorisé, mais 72% finissent par un acquittement. Alors qu'à partir de 1924, entre 1924 et 1934, il n'y a plus que 19% des procès qui finissent sur un acquittement. Donc il y a vraiment un renforcement de la loi, et la loi donc qui va être très violente, cette loi de 1920 qui sera encore renforcée en 1923.
Parce que justement, il y a la justice, les médecins, enfin je veux dire, il y a toutes ces forces d'oppression là, à cette époque-là, ou même encore maintenant d'ailleurs.
Tout à fait, Et d'ailleurs, il y a un truc qui est quand même intéressant à signaler, c'est qu'effectivement, bon, les lois, la loi est là. On sait que, par exemple, pendant la guerre, il y a une femme qui a eu la tête coupée pour avoir pratiqué des IVG. Hein, en 1942, Pétain avait, et on va le voir dans quelques secondes, les lois vont se renforcer à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il faut quand même savoir que c'est pas si loin que des vieux camarades, et entre autres, on a un vieux camarade libre-penseur qui s'appelait Aristide Lapeyre, qui fera de la prison en 1973. Pour avoir fait des conférences, pour avoir fait des incitations à l'avortement et à la contraception. En 1973, ce vieux libre-penseur qui avait alors 74 ou 75 ans a fait 3 ans de prison. Donc c'est pas si vieux, c'est-à-dire que... Non, c'est hier.
Oui,
tu te rends compte que quand on parle aujourd'hui du planning familial et quand on parle de ce danger qui pèse sur ces lois qui sont très très fragiles, il y a 30 ans, il y avait encore en France des gens qui étaient en prison pour s'être battu pour ce droit essentiel des femmes à l'IVG.
Et juste à faire réfléchir les femmes et les hommes là-dessus, et pas du tout, en plus, en ayant pratiqué des avortements, à la limite,
tout à fait.
Je veux dire. C'est,
tout à fait.
Quand on voit aux États-Unis, ou même ici, des médecins qui se font... avoir par les catho intégristes parce que justement ben, ils font des avortements ou tout ça, donc le truc c'est assez affligeant. Après c'est vrai que ce qui m'embête c'est que là en ce moment ben, le planning il part et au lieu de justement continuer ces luttes là en tant que femme, en tant que ce que tu veux, et de gagner de plus en plus de droits quand même pour aller un peu vers l'égalité, s'il vous plaît.
Tout à fait.
Là, on est obligé de se battre encore, pas pour en avoir plus, mais pour éviter que les autres, ben, ça s'étiole de tous les côtés, quoi. Donc, c'est...
Absolument. C'est-à-dire que là, il faut se battre pour garder les acquis. Enfin, dans tous les domaines, hein. On est bien d'accord.
Oui,
bon, là, aujourd'hui, on parle du planning, mais il sera intéressant aussi de développer tous les autres acquis qu'on est en train de perdre. Mais il est bien évident qu'il faut être bien conscient qu'on est en train de perdre ces acquis essentiels.
Oui.
Et moi, il m'est arrivé de faire des conférences sur le sujet parce que bon, je suis amenée souvent à faire des conférences, à en discuter dans des endroits divers et variés. Et quand on a en face de nous des jeunes femmes qui ont toujours vécu avec ces lois, avec la loi sur l'IVG et la contraception, et qu'on leur dit attention, ces acquis vont être remis en cause, elles nous disent non, ça n'est pas possible, c'est acquis, c'est définitivement acquis. Et ben non, là on prouve que ça n'est pas définitivement acquis. Et il faut savoir qu'il y a des offensives qui sont très importantes. Alors cette offensive actuelle, donc la diminution des budgets, c'est une technique très efficace, hein, c'est une technique indirecte, mais très efficace. Mais il y a aussi d'énormes pressions. On en revient toujours à la pression des églises sur les institutions. Il y a d'énormes pressions pour faire reconnaître, et ça je pense que ce sera aussi un sujet à développer par la suite, puisque on va rentrer dans une année de discussion sur la bioéthique, mais il va y avoir des discussions dans les mois à venir sur le statut juridique de l'embryon.
Oui, voilà. Et,
voilà. Hein, il y a déjà eu des tentatives, puisqu'il y a eu l'amendement Garot il y a 4 ou 5 ans. Il y a eu tout un tas de tentatives de remise en cause de statut juridique, et reconnaître un statut juridique à l'embryon, c'est la fin des droits à l'avortement.
Oui, c'est ça.
C'est bien évident.
C'est ça, parce que déjà, je voyais pour la recherche sur des cellules souches ou des choses comme ça, ou justement dans d'autres pays, on voit justement par rapport aux embryons, par rapport à plein de choses, où on peut développer des traitements pour certaines pathologies, et que la France, ben surtout pas, faut vraiment pas faire ça, faut pas toucher à ça, parce que c'est de la vie, même si ça ne sert plus, même si c'est
tout à fait.
Faut pas toucher, et puis ben, si vous êtes enceinte, vous avez un accident dans la voiture, il y a une voiture qui vous a rentré dedans, si votre bébé meurt, parce que, enfin votre embryon meurt parce que vous avez été accidenté, l'autre va être responsable aussi.
Voilà, tout à fait. Alors ça a été quelque chose qui heureusement n'a pas réussi à passer.
Oui.
Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça a été la loi, le projet de loi, l'amendement Garot. Hein, c'est un amendement Garot qui effectivement revendiquait l'indemnisation d'une femme qui perdait un embryon au cours d'un accident de la route. Donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Et là justement, toutes les organisations avec le planning familial ne s'y sont pas trompées. Il y a eu une levée de bouclier très massive à ce moment-là. Hein, c'était, je crois que c'était en 2003, il y a eu une levée de bouclier très importante qui a abouti justement au fait que cet amendement Garot ne passe pas. Mais c'est toujours sur la sellette, c'est-à-dire
c'est ça, c'est pas
toujours...
sûr que ça va pas passer demain.
Sûr. Voilà, c'est pas sûr que ça va pas passer justement avec ces discussions qui vont avoir lieu sur les problèmes de bioéthique, puisque c'est cette année que vont avoir lieu ces discussions sur la bioéthique et sur la possibilité de recherche sur les embryons. Donc effectivement, c'est quand même, ça demande extrêmement de prudence, quoi. Il faut vraiment qu'on soit extrêmement vigilant, extrêmement prudent, parce que l'histoire a prouvé que il y a des périodes comme ça, des périodes très fortes, et je pense qu'on est dans cette période-là, des périodes où la réaction est très forte.
Hein. Oui.
De toute façon, faut pas se voiler la face. On a en face de nous des organisations qui ont des moyens, des organisations réactionnaires, des organisations chrétiennes qui sont très fortes. Et je n'en donnerai qu'une, je ne donnerai qu'un exemple. Et c'est en ça que justement que je m'inquiète complètement sur les résultats justement des discussions sur la bioéthique. Certains élus aujourd'hui, des élus politiques, entre autres des élus de mon département, parce que moi je suis originaire du Jura, un élu de mon département, sénateur, est en train de créer une organisation qui s'appelle l'Association Chrétien Élu Public. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une influence, il y a une... se retrouve dans cette... devant des élus d'ailleurs qui n'hésitent plus à s'affirmer chrétien, pratiquant, et qui invite d'ailleurs cette association, invite tout simplement les membres à discuter des grands problèmes de société, dont l'avortement, la contraception, l'euthanasie et la bioéthique. Donc il y a une discussion qui est en train de se faire avec des gens qui s'affirment aujourd'hui élus catholiques.
Oui, c'est ça.
Donc c'est dangereux.
Mais en plus, il y en a beaucoup aussi de l'Opus Dei et tout.
Tout à fait.
C'est vrai que là...
Voilà, c'est une force considérable. C'est une force considérable. Et on retrouve justement dans cette évolution, d'ailleurs on retrouve aussi dans cette discussion sur les lois essentielles pour les femmes, on retrouve aussi les mêmes oppositions qu'on a aujourd'hui sur les débats sur le droit à mourir,
sur
l'euthanasie.
Parce que
moi, je m'intéresse beaucoup à ce problème-là.
Mais les deux choses sont liées.
Les deux choses sont liées. C'est exactement le même combat.
C'est exactement la chose pour la vie, justement. Et que...
Absolument. C'est un combat qui est similaire, qu'on peut vraiment... Oui. Et si on écoute bien, d'ailleurs, les discussions... qu'il y a sur l'euthanasie ou sur ce droit à l'avortement et à la contraception, on a exactement les mêmes mots, les mêmes oppositions, on se retrouve exactement face aux mêmes opposants, avec une violence d'ailleurs importante.
Mm.
Et il y a une chose qui est importante de signaler aussi, que je signale quand même régulièrement, c'est que ces opposants à l'avortement, à la contraception et au droit à l'euthanasie sont ceux qui ne s'opposent pas à la guerre ou à la peine de mort.
Oui, tout à fait.
C'est quand même toujours intéressant de le signaler. Et là, je voudrais lire un petit texte qui est intéressant d'ailleurs sur ce problème de cette notion de vie et de cette notion de
droit.
De droit. C'était il y a quelques années. Alors c'était en 56. 56. Donc au moment justement où les premiers plannings familiaux sont nés, où c'est apparu à ce moment-là. Et on avait, nous, le docteur Fabre. Le docteur Fabre est celui qui, à Grenoble, avec d'autres, avec pas mal de gens d'ailleurs, et principalement des libres penseurs, avait créé le premier centre de planning familial, un vrai centre de planning familial où ils ont pratiqué des IVG en quantité, donc en étant complètement hors la loi. Hors la loi. Et le docteur Fabre s'est insurgé contre ce qu'il avait entendu. C'était le point de vue d'un jésuite qui s'appelait le père Nebnoff qui affirmait. Alors là, accrochons-nous bien parce que je trouve ça effrayant. Le père Nebnoff disait « L'idée que par la suite de difficultés de logement ou de raisons économiques, il sera difficile d'élever des enfants, ne vient pas à l'esprit car la famille, si misérable soit-elle, existe tout de même. Même si l'enfant meurt de faim, il mourra entouré de tendresse. » C'est effrayant, hein?
Ah oui, oui.
Ce qui est mieux que de mourir anonymement avant la naissance. C'est impensable. Le traumatisme, la blessure de la contraception, c'est autrement plus grave. L'enfant meurt de malnutrition, mais son souvenir restera comme un petit éclair de lumière fugace et d'un bonheur passager. Voilà ce que disait l'Église il y a seulement 50 ans.
Je pense qu'elle le dit encore. Hein.
Elle le dit encore. Elle le dit encore, d'ailleurs. Elle le dit toujours. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de cette logique. D'ailleurs, eh ben là, on va revenir un petit peu en arrière, hein, puisque on sait qu'au moment du régime de Pétain, donc l'oppression des femmes va se renforcer.
Oui.
Et donc Pétain affirmait, le droit des familles est antérieur et supérieur à celui de l'État. La famille est la cellule essentielle, elle est l'assise même de l'édifice social. C'est sur elle qu'il faut bâtir. Si elle fléchit, tout est perdu. Si elle tient, tout peut être sauvé. Donc effectivement, Pétain était un opposant, un farouche opposant à toute notion de limitation des naissances et il développait les politiques natalistes. Effectivement, il préférait envoyer les gamins sur les champs de bataille se faire trucider que plutôt de voir qu'ils ne naissent pas.
Et on est encore à canon et puis comme ça tout ira bien.
Voilà.
Donc on va faire une petite pause musicale là après toutes ces réjouissances parce que là faut digérer un peu, là je viens plus là. Forêt reclus à l'Elysée sur Radio 103.2.3 FM et sur 95.9 sur Radio Plaisance en Périgord noir et www.radioperigord103.org. Donc nous sommes toujours au téléphone avec Michel et donc il nous reste 10 minutes pour clore cette émission. J'espère qu'on en refera une très vite parce que le sujet est vraiment des plus intéressants et je dirais même des plus urgents. Ici et maintenant, donc Michel, je te laisse la parole.
Effectivement, oui, donc je te remercie. Donc c'est vraiment un problème urgent et d'actualité, plus que d'actualité, puisque je reprends là quelques rencontres que j'avais eu l'occasion de faire. Donc là, effectivement, on va parler de ce qui se passe à l'heure actuelle, puisque le rappel historique a permis de montrer l'importance des luttes qui ont été menées depuis 200 ans. Mais ce qui se passe aujourd'hui, donc au planning familial, est aussi significatif, donc on le disait, d'un retour à l'ordre moral et donc avec quelque chose d'extrêmement dangereux. Et j'ai eu l'occasion donc plusieurs fois de rencontrer Françoise Laurent, qui est la présidente nationale du planning familial, avec laquelle je suis d'ailleurs en contact en permanent en ce moment, puisque donc pour cette affaire de pétition. Et je vais reprendre quelques phrases que m'avait dit Françoise Laurent à l'occasion d'émissions qu'on avait fait ensemble, dont l'une en particulier en janvier 2007. Et à la question, donc je lui posais quelques questions, et c'est au moment, par exemple, où le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, à l'occasion des élections donc présidentielles en France, s'était posé. On lisait donc dans la question du Conseil permanent des évêques de France aux candidats à l'élection, on peut lire. Donc on lisait: comment construire la confiance si la société accepte l'exclusion des plus faibles, depuis la pratique de l'avortement jusqu'à la tentation d'euthanasie. Donc en 2007, on le voit, on voit que depuis 200 ans, la vision de l'Église n'a pas changé. Et effectivement, à cette question, à la question que je posais à Françoise, donc sur cette position du Conseil permanent du Conseil des évêques de France, Françoise Laurent me répondait: l'Église ne change pas, mais ce qui est nouveau, c'est que l'Église nous fait un paquet cadeau en amalgamant la conception, l'euthanasie, la misère, les sans-logis, et même la reconduite aux frontières des enfants scolarisés. En faisant cet amalgame, elle joue sur la corde sensible. Et on le disait tout à l'heure, elle donne à l'embryon un statut de personne, comme aux SDF dans la rue ou aux enfants maltraités. C'est intéressant de voir cette analyse qu'elle faisait. Voilà, parce que on le voit bien. On parlait tout à l'heure donc du statut juridique de l'embryon, qui est largement remis en cause, puisque il y a quand même des risques très importants pour qu'on donne statut juridique de l'embryon en France. Il faut savoir d'ailleurs que la France est un dernier pays où l'embryon n'a pas de statut juridique, Il faut quand même bien le préciser. Et donc c'est intéressant de voir la manière dont elle traite les choses. Et donc elle continue en disant: de fait, la corde sensible, c'est bien la pauvreté, les morts par le froid, les enfants expulsés. Mais il est malhonnête de la part de l'Église de mélanger les choses pour essayer de donner le même statut à leurs revendications. Alors, bien entendu, la suite de la discussion était que Françoise Laurent, comme moi, espérait bien que les femmes ne se laisseraient pas manipuler sur ce point, parce que il y a quand même aujourd'hui, il faut, en plus de tout ça, en plus de cette pétition, de cette diminution des budgets et tout ça, il y a aujourd'hui une tentative très importante de culpabiliser les femmes, dans le sens où on explique, et on va le voir dans quelques minutes. Donc il y a vraiment il faut aujourd'hui culpabiliser les femmes, dans le sens où pour les femmes, vouloir avoir une carrière et des grossesses quand elles le désirent, c'est ne pas respecter l'ordre des choses. Et on lit ça, on lit ça partout. C'est pas ce qu'elle explique. Elle l'explique, mais elle l'a lu. Donc pour toutes ces institutions, en particulier les institutions religieuses, ce sont les femmes qui seraient responsables à cause de leur désir de tous les malheurs sur la terre. Sur les retraites, par exemple. Alors, on entend souvent parler des retraites, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, puisque c'est quand même un sujet brûlant, un sujet quand même bien d'actualité avec les grèves et avec toutes les manifestations qu'on voit aujourd'hui. Eh bien, sur les retraites, l'Église dit, et c'est récent, c'est quelque chose de récent, c'est pas quelque chose qui a 50 ans, l'Église continue à culpabiliser les femmes en ne posant pas la question de ce que les femmes vont toucher à la retraite quand elles ont travaillé et cotisé assez longtemps, mais disent que si on n'a pas suffisamment de retraite aujourd'hui, c'est parce que les femmes ne font pas assez d'enfants. On culpabilise les femmes en les rendant responsables du fait qu'aujourd'hui, on ne pourra pas payer les retraites de tout le monde dans ces années.
Elle pique le boulot des hommes aussi.
Elle pique le boulot des hommes.
C'est le chômage aussi. Voilà. Et puis en plus, elles n'ont pas trop accès quand même justement à la contraception, justement au planning familial. C'est très très difficile pour une jeune fille aussi.
Tout à fait.
D'avoir ces démarches-là. Moi, je vois à chaque fois les médecins, c'est ça. Ils donnent une boîte de pilules et puis il n'y a pas de prise en charge du tout justement par rapport à la contraception.
Tout à fait.
Il y a de la désinformation de partout et là c'est pour ça que c'est très très dangereux et très très urgent là maintenant.
Bien sûr. Et là c'est pour ça que effectivement quand on lit dans la pétition du conseil du planning familial qu'effectivement bon l'État doit assurer sa responsabilité, ne doit pas supprimer les lieux d'écoute et de parole. C'est capital, parce qu'effectivement, il faut quand même être bien conscient d'une chose, c'est que ces lieux d'écoute et de parole sont le seul endroit où des femmes de toutes origines, et je pèse mes mots en disant de toutes origines, peuvent avoir un accès à l'information et à la contraception et à l'avortement. Hein, parce qu'il est bien évident qu'il y a quand même pas mal de femmes qui sont de toutes origines et principalement d'origine issue de l'immigration, n'ont qu'un seul endroit où elles peuvent se rendre, c'est dans les plannings familiaux. Où elles peuvent aller toutes seules, mais sans trop de risques. Hein? Donc effectivement, c'est dramatique de supprimer ces lieux de...
Ah oui, vraiment pour toutes, quoi, parce que même une jeune fille de 14-15 ans...
Tout à fait.
Quand il n'y a pas d'amis, quand il n'y a pas... Enfin, si, il y a des amis, mais on ne parle pas de ça. La famille, ce n'est pas possible non plus. Donc, on va au planning familial, parce qu'il n'y a que là qu'on peut l'être, parce que le médecin, c'est pareil, ce n'est pas possible, ce n'est pas un allié non plus.
Tout à fait.
Donc, c'est vrai que c'est...
Oui, c'est grave, et c'est pas un hasard d'ailleurs quand elles disent il faut quand même se rendre compte du nombre, c'est 450 000 personnes qui passent aujourd'hui dans les centres de planning familiaux par an. 450 000 personnes, c'est un chiffre énorme.
Hein, c'est bon.
Donc effectivement, c'est vraiment une reculée sociale, c'est vraiment le retour, moi je dirais le retour à la barbarie.
Oui, c'est ça.
Je crois qu'il faut pas se voiler la face. On est vraiment en train de reculer. On est en train de retourner au Moyen-Âge, quoi.
Oui.
Et donc
que l'ordre moral, il y a toujours eu.
L'ordre moral, il y a toujours eu.
Mais voilà. Pas dans cette barbarie-là, comme tu dis.
Tout à fait. Et là, il y a une régression complète. Et donc je voudrais aussi citer ce que m'avait dit Françoise Laurent, donc il y a deux ans, qui est aussi très important. Quand je parlais tout à l'heure de la reconquête catholique des institutions, en 2005, donc elle m'expliquait qu'en 2005, le Conseil de la famille, donc le Conseil de la famille, c'est un conseil qui se réunit, qui fait un rapport chaque année. Dans le rapport du Conseil de la famille de 2005, qui se réunit chaque année à Matignon avec le Premier ministre pour faire le point sur les problèmes des familles et trouver des solutions. Que peuvent apporter les pouvoirs publics. Donc ce rapport du Conseil en 2005, donc on abordait le problème des grossesses tardives. Bon, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les femmes ont tendance à faire leurs enfants beaucoup plus tard.
Oui.
Eh ben, ce Conseil de la famille, donc le rapport du Conseil concluait que si les femmes aujourd'hui sont des égoïstes parce qu'elles pensent plus à leur carrière professionnelle qu'à l'avenir du pays. C'est une institution de l'État qui dit ça. Hein? Donc on est bien d'accord. Donc on n'est pas surpris d'ailleurs qu'aujourd'hui l'État décide de supprimer de diminuer 42% le montant alloué au planning familial.
En plus, si les femmes pensent à leur plaisir avant leur carrière, de faire des gosses, alors là c'est mort. Là.
Alors là, on en revient à ce que disait le docteur Delery en 1918 quand il disait que les femmes étaient des prostituées. Était ramené au rang de prostituée. Mais c'est quand même catastrophique.
Oui.
Et ce qui est quand même encore plus dramatique, d'ailleurs par rapport à la France, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on sait qu'en France, après l'Irlande, comme tout le monde le sait, qui est un grand pays catholique et tout ça, la France est le deuxième pays au rang de la natalité dans l'Europe.
C'est ça, ouais.
Donc en plus, non seulement les femmes françaises, donc on essaie de les culpabiliser, mais les femmes françaises sont celles qui travaillent le plus, et sont celles qui ont le plus d'enfants en moyenne.
En moyenne après l'Irlande.
Voilà, donc en plus c'est faux. Hein. En plus c'est absolument faux. de dire qu'effectivement les femmes ne procréent pas, hein, puisqu'on sait qu'on est le deuxième au rang. Mais n'empêche, aujourd'hui on est rentré dans cette logique où eh ben, vous avez le droit de bénéficier d'un avortement, vous avez le droit de bénéficier d'une contraception, mais mesdames, vous êtes des égoïstes, mesdames, vous devez vous culpabiliser de ne pas apporter des enfants
à la France.
À la France. Je trouve ça quand même assez effrayant.
Oui.
C'est quand même assez effrayant.
Là, l'émission est finie. Je suis effrayée aussi.
Oui.
Que l'émission soit finie. Donc, juste vite fait, si j'ai deux secondes, j'ai vu il y a pas longtemps un spectacle à Bordeaux qui s'appelle le Frichtit Fatou, qui va être justement joué le 10 mars à Saint-Astier à la Fabrique, et qui est justement toute l'évolution d'une femme qui vient d'Algérie, qui arrive à Paris, et c'est un spectacle formidable, où justement elle parle du planning familial, puisque arrivée en France et au planning familial, elle a plein de révélations là-dessus, et que c'est un spectacle très très bien, je vous le conseille à toutes et tous. Voilà. Donc, Michel, je te remercie énormément. Une heure, c'est trop court.
Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie.
On en refera une bientôt, je pense.
Eh bien, avec grand plaisir, en tout cas.
Donc, voilà, c'était Forêt Reclus sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 et sur Internet www.radioperilleux103.org. Merci Fabrice à la technique. Et puis, à très bientôt, dans 15 jours ou dans un mois. Au revoir.
C'est tout ça.